RTL.
15h de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Le spectacle va commencer. Et ce spectacle est unique.
Principe actif.
Un spectacle enfin digne de l'univers.
Ça sera un spectacle, crois-moi.
Inutile de retenir vos places. Vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable. Ça me rappelle la jeunesse.
Ça commence bien.
Et le spectacle continue.
Alors, bonjour Denis Charolles.
Bonjour Philippe.
Alors Denis Charolles, vous êtes batteur, compositeur, le fondateur des Musiques à Huir.
Co-fondateur avec Christophe Moniaud et Cyril Sergé, qui n'est plus de ce monde malheureusement.
Ça fait quelques années moi que je vous suis. Hein, depuis.
Mais oui, ouais, c'est super de pouvoir continuer à se voir comme ça à travers le temps, toutes ces histoires.
Voilà, depuis Rouen, la première fois, à l'époque c'était sur Radio Campus, quand je vous avais connu. Et puis après je suis allé sur Paris, FPP, et là c'est donc Principe Actif, Radio HDR.
Bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
On va parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui à Pantin, puisqu'il y a eu une première semaine de résidence.
Oui, tout à fait, au centre culturel Nelson Mandela, qui est un tout nouveau centre culturel, dans le quartier des Courtilières, donc un quartier où c'est génial, super d'avoir un lieu de culture comme ça, au milieu d'une cité, c'est génial. Alors c'est aussi une ludothèque et aussi une médiathèque. Donc c'est le centre culturel Nelson Mandela avec une architecture toute particulière. Donc ça vaut vraiment le coup de venir découvrir. Et puis nous on est contents de là travailler autour de notre prochaine création sur cette notion de virtuel. Voilà.
Puisque la création s'intitulera Virtuoso.
Virtuale Virtuoso. Virtuale Virtuoso.
Virtuale
Virtuoso. Il y a l'Italie.
Ah oui, l'Italie. Est-ce qu'on peut rapidement faire un petit historique des Musiques à Huir?
Les Musiques à Huir, c'est un ensemble qui a une trentaine d'années maintenant.
Donc à la base, c'était un trio, c'est ça?
Un trio qui jouait dans les rues, qui après qui était assez sensible aux musiques de jazz, mais aussi aux musiques de danse, et puis issues dans ce plutôt vals, passo doble, mais beaucoup de musique improvisée. Beaucoup en lien avec l'Art Ensemble of Chicago, à une époque on nous appelait l'Art Ensemble of Europe, donc bon. Et très en lien avec ces musiques assez libres, assez puissantes en fait, au niveau du sens, et la relation au rythme assez fort aussi, au langage aussi, à la langue, aux choses dites, pas mal de chansons, et lien aussi à une époque avec la danse. Et c'est pour ça que là, travailler avec Dimash Tivan, il y a une forme de rapport dansé, au geste, au mouvement, au jonglage. Donc ça suit un peu l'épopée des Musiques à Huir, tout ça.
Ça va être un peu compliqué en 30 ans de résumer parce qu'il s'est passé tellement de projets. Donc à la base, deux soufflants et vous, batteur, mais aussi, il y avait déjà de la voix à l'époque, du chant.
Ouais, il y avait déjà de la voix, ouais. J'étais déjà attiré.
Et la voix d'ailleurs, elle a toujours été présente parce que vite vous avez fait des rencontres avec Brigitte Fontaine, il y a eu Eric Larenne, Maggie Nichols, Loïc Antoine, pour n'en citer que quelques-uns bien sûr.
Ouais.
Épiciez, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent. Vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre les enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes.
Il y a toujours Eric Larenne, il y a toujours Brigitte Fontaine, on ne bosse plus ensemble, mais ça a été un grand plaisir de travailler avec Brigitte, une grande joie. Avec Eric, c'est une très, très belle histoire, Loïc, c'est pareil. Et on a un nouveau projet qui tourne, là, qui joue le 14 mars à Mont-Saint-Aignan, comme ça.
Qui s'intitule comme ça et ouais. Qui est donc un hommage au label Sarava. Enfin, hommage, je ne sais pas si c'est le terme.
C'est
mais...
pas un hommage, c'est la continuité un peu de au Brigitte, sachant que Sarava, c'est Pierre Barou. Pierre Barou qui avait donc un label après avoir écrit la musique d'un homme et une femme. Avec les droits, il a monté un label. Et il a fait venir beaucoup de musiciens, il a fait rencontrer beaucoup de musiciens, notamment du Brésil, des États-Unis, avec pas mal de chanteurs, notamment français. Il y a un très beau film qui s'appelle Viva Sarava, où, comme rarement, on peut assister à la musique sur un film, ce qui est assez rare. Je pense qu'il faut aller le voir et vous comprendrez de quoi je parle. Je ne veux pas en dire plus. En tout cas, comme ça, donc le 14 mars à Mont-Saint-Aignan, l'espace Marc Sanglier, autour du label Sarava, avec des musiques du Brésil, avec des chansons connues et moins connues, d'Igelin, de Fontaine, d'Éric Larenne, de Loïc Lantoine, de Maya Barou. On a même repris une version de I Can't Get No de Divo, qu'on a francisée. On a détruit et reconstruit une chanson de Colette Magny. On a, enfin voilà, tout un jeu. On est un peu dans la destruction, mais c'est pas la guerre, on va dire. C'est une forme de destruction non violente, on va dire.
Donc de ce dernier projet aussi, celui qui va donc, j'imagine, d'ici la fin de l'année, se mettre en place.
Oui, Virtuale et Virtuoso, donc avec Julien Hale au saxophone qui fait partie de la compagnie depuis, à mon avis, pas loin de 20 ans. Donc voilà, il fait partie des piliers de l'ensemble. Une jeune chanteuse avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant, Sofia Bortoluzzi, qui est rouennaise d'ailleurs.
Et vous avez d'ailleurs joué en trio pour le cadre du Chandelle, je crois.
Exactement, on a joué en trio, oui, dans un bar à Rouen, tout à fait.
Voilà.
C'est... trio Shoes, toujours en relation avec les chaussures, jeu de mots entre shoes, choisir et chaussures. Choisir une paire de chaussures, c'est toujours compliqué, n'est-ce pas ?
Un répertoire notamment jazz, mais pas que.
Un répertoire jazz, mais pas que. On s'achemine vers un doux mélange de chansons et de musique un peu plus savante, en fait.
Donc ça, c'est le trio Chose. Et puis, mais là, pour ce projet, vous avez donc en plus un circassien.
Oui, Dimash Tivane, qui vient du Mozambique et qui est circassien, qui est jongleur, mais qui est très musicien aussi. Et donc ça permet d'imaginer plein de très belles choses. Et une relation du geste au son, toujours aussi. Donc sur la thématique donc, du virtuel. De ce que ça peut susciter en nous, et aussi que ça puisse susciter par rapport aux jeunes générations, c'est-à-dire comment s'adresser aux jeunes générations à travers ce sujet, quels sont les aspects de la virtualité dans les générations chez les jeunes, quoi. Donc moi je le questionne pas mal. Il y aura des textes, là il n'y a pas eu ce soir de textes, mais il y aura des textes dits, des textes parfois assez violents d'ailleurs, sur cette relation de solitude au monde totalement virtuel où le présent devient quelque chose d'emprunté, la personne est peut-être s'abandonne dans un truc pour le coup complètement d'une forme d'absence à une existence du présent physique, on va dire. Donc on va questionner ça.
Ce seront des textes qui viennent d'où?
Des textes qui sont pas mal issus de choses récupérées sur des sites que j'ai pu glaner sur la toile, en fait. Il y a un site qui s'appelle Cairn où il y a pas mal de choses, Cairn Info, il y a des trucs super. Et il y a aussi des textes issus de d'ateliers que je mène à Pantin depuis plusieurs années. Donc des textes écrits aussi par des jeunes.
Et Dimas, là, qui est juste derrière, donc il est marionnettiste aussi, me semble, je ne suis pas sûr, non?
Non, je ne crois pas. Ah si? Ah ben, je ne savais pas, moi, que tu étais marionnettiste.
Il y a eu un joli chant à la fin, je ne sais pas, que tu as entonné, c'était quel chant?
Tout à fait, alors, c'est Ulikwapi Makum, qui veut dire « Où est ta culture ?» ou « Quelle est ta culture ?» C'est un chant en Sena, qui est une langue parlée au centre du Mozambique, dans une ville qui s'appelle Beira. C'est un chant qui rapproche les gens, questionne à chaque personne quelle est ta culture, où elle est, où est-ce qu'elle est ta culture. Donc c'est pour ça qu'on appelle chaque prénom, on dit le nom des pays, on dit le nom de manifestations pour dire où est ta culture au final.
Et puis voilà. C'était un joli chant pour justement présenter tous les artistes qui ont joué, notamment les enfants qui ont fait la première partie du projet.
Bah oui, tout à fait. On a trouvé ça hyper intéressant de pouvoir aussi valoriser leur présence pendant toute la semaine et de pouvoir les appeler de manière assez mélodique, harmonique avec cette chanson. Du coup, c'était un super moment à partager avec eux.
Saïdi Ahmed, Olé Papé Makumba, Macumba. Oh Denis, voulu taper Macumba. Sophia, voulu taper Macumba.
Oh Julia,
voulu taper Macumba.
Ce projet, il s'annonce très 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 bien. C'est un projet, c'est en gros une aventure au final, parce que il y a plusieurs éléments, que ce soit la musique, l'improvisation musicale, le jonglage et aussi l'interaction entre les deux disciplines. Donc ça s'annonce bien, parce qu'on part vraiment dans tous les sens en ce moment. On essaie d'exploiter justement les ponts, les moments de croisement de ces disciplines, et donc ça s'annonce super bien. Moi, je suis hyper excité de pouvoir voir ce qu'on pourra créer avec tout ce qu'on essaye jusqu'à présent. Déjà avec les musiciens, oui, on a créé un spectacle en 2023 qui s'appelle comme ça, et là déjà il y a un engagement musical et jonglistique, cette relation qui existe. Du coup c'est j'ai eu l'opportunité aussi de partager, que ce soit avec Denis, Julien, avec Maya Baou, avec Sophia qui est là dans ce projet aussi, donc voilà, ça commence à faire partie aussi de nos interactions aussi, de nos collaborations.
Vincent Béraud de la Maison des Jonglages a plein d'idées.
Oui.
Dans sa tête, ça fait...
Alors, nous sommes toujours avec Denis Charol des Musiques à Huir. Donc là, on a présenté tous les artistes de ce projet. Donc vous serez quatre, c'est ça pour l'instant?
Mm-hmm. Tout à fait, on sera quatre, exactement.
Voilà, et donc on s'attendra à du visuel, à des mots, à des textes qu'on n'a pas encore eu ce soir trop.
Qu'il y a eu de la part, notamment dans la première partie avec donc, les ateliers des enfants, notamment des quartiers, des quatre chemins et des Courtilières. Et aussi des grandes personnes, donc des adultes aussi, autour de cette thématique, parce qu'on a travaillé tout l'été ici avec eux. Et en fait, il y a un gros travail de jonglage sur le geste qui, pour moi, est vachement important aussi pour les générations, pour les jeunes, cette relation au corps et au geste, parce que c'est une relation au rythme aussi, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Et donc, dans tout le travail qu'on fait autour de la musique et de la poésie, je trouve que c'est vachement intéressant de d'inviter cette pratique du jonglage, quoi. Donc, et puis on se rend compte que ça les mobilise vachement, en fait. Cette question d'adresse et sur le rythme, c'est merveilleux, parce que très vite, en jonglant, on comprend très vite ce que ça veut dire, le rythme. Ça peut être très abstrait, le rythme, pour un jeune. Un jeune, une jeune, ça peut être très très abstrait, ça peut même pour des plus anciens aussi. Je trouve que le jonglage, ça permet véritablement de pouvoir saisir des points abstraits.
Donc effectivement, donc les jeunes et les moins jeunes, donc on dit des mots, on jonglait.
Oui, ils ont écrit des poèmes, ils ont dit. Oui.
Voilà. Donc on a l'impression que vous êtes bien ancré à Pantin avec tous ces projets. Il y a beaucoup de choses qui se passent finalement ici.
Ouais, il y a beaucoup de choses. Pour moi, il y a toujours la question de repasser maintenant, parce que je commence à être un vieil homme, on va dire. Il y a toujours ce souci de pouvoir repasser tout ce qu'on a pu glaner et le repasser, quoi. Donc là, je trouve que c'est une certaine façon de le repasser qui me plaît pas mal. le mode d'enseignement parfois institutionnel me fait un peu flipper. Donc j'aime bien ce passage de choses que... On passe quelque chose. Des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on passe, mais on passe quelque chose qu'on sent, qu'on a l'impression d'avoir... Moi, j'ai appris comme ça aussi.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes autodidacte, d'une certaine manière.
Bien sûr. Bah, j'ai pris quelques cours d'instruments, mais... Enfin, même pas mal de cours, mais pas tant que ça. Et j'ai beaucoup travaillé... j'ai beaucoup appris par les autres, en jouant en groupe.
Avec Little Bob.
Notamment, mais bien sûr, énormément avec Little Bob, énormément avec Laurent Dehors, énormément avec plein d'autres gens. Christophe Moniaud, avec Bernard Lubat, André Mainviel. J'ai beaucoup appris avec Brigitte Fontaine, avec Yvette Horner, avec Maggie Nichols. J'ai énormément appris. Et donc... Forcément, on a envie aussi de repasser dans la pratique, en fait. Dans la pratique, dans les incidents, dans les choses qui, où on peut tous questionner comment ça se fabrique, comment ça tient, est-ce que ça tient. Il n'y a rien de complètement imposé, même si tout est, la forme est un peu imposée et tout, mais quand même, chacun a sa part de responsabilité pour que ça tienne. Moi, je sais que quand je commençais chez Little Bob, il y avait une confiance absolue. Alors, bon, je savais faire des choses, mais il y a plein de choses que je ne savais pas faire. Il y a toujours cette conscience d'une potentialité de chaos qui, finalement, était sans doute, pour moi, le chaos. Il y a beaucoup aussi de créativité dans le chaos, donc... Le chaos non violent, j'entends bien.
On peut parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au niveau de la culture aussi, des subventions.
Je pense qu'on est tous conscients qu'on est dans un monde de plus en plus fascisant, alors soumis à justement cette question du virtuel, moi me pose beaucoup. Je pense que c'est un vrai leurre dans lequel l'humanité on a la sensation qu'il y a une partie de l'humanité qui finalement est emprisonnée là-dedans. De par plein de choses, il y a des séries absolument atroces qui sortent, mais qui finalement sont révélatrices de la réalité, je pense, de vie de beaucoup de gens. Nous, en tant qu'artistes, on a la sensation d'être de plus en plus des résistants. Je pense qu'on n'est pas les seuls résistants. Il y a énormément de gens qui résistent à tellement de choses, tellement violentes et tout. Nous, on se bat pour continuer, un, à exister, et deux, à partager, bien sûr. Parce que c'est quand même la chose la plus importante, le partage. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir tendance à dire qu'aujourd'hui, l'individu enfermé chez lui à consommer du numérique et de la bouffe pourrie, en faisant tourner la machine à Afrique, est un projet, fascisant et qui gagne du terrain. Moi, je crois que la force du plus faible est toujours celle qui remporte. Je crois vraiment. Je dis bien plus faible au niveau du pouvoir, on va dire, financier, du pouvoir matériel, on va dire. Après, il y a toujours l'espace de la pensée qui reste un espace absolument infini et dans lequel on a tellement de choses à partager. C'est ça. Après, c'est compliqué pour tellement de choses. L'hôpital, l'éducation, tout ce qui est service public, l'école, on n'en parle pas parce que ça va avec ça. Avec ce système complètement unique de la soumission à un diktat imposé par par qui on sait. Moi, j'aurais tendance à dire, on est bolloriste ou on n'est pas bolloriste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, pour moi, les histoires de partis politiques qui viennent. Des choses forcément importantes parce que le vote ça reste quelque chose d'important, mais je pense que s'il y a quelque chose contre quoi il faut se battre, c'est contre, je pense, l'idéologie destructrice du monde Bolloré. Il faut se questionner sur à quel endroit je participe à ce monde, à quel endroit j'arrive à m'y opposer, à résister, et puis à s'unir. Je pense qu'il faut s'unir. On manque de moyens. On a l'impression que les réseaux, tout ça, sont le seul moyen de rester en contact. C'est faux, c'est totalement faux. Je pense qu'il y a plein de moyens. C'est vrai que sortir, aller au théâtre, aller au concert, aller dans la rue, ça reste des moyens super importants. Et qu'aujourd'hui, le faire. Mais on a toujours eu l'impression de ça. Avec les Music Awards, parce qu'on allait jouer dans les rues pour ça, parce que moi j'avais appris ça beaucoup avec une fanfare à Rouen à l'époque, Mona Lisa Klaxon et tout ça. Là, ça reste encore plus criant aujourd'hui, parce que la rue c'est devenu un truc tellement fliqué, caméraisé, et encore, on est qu'en France. Il y a du boulot, il y a vraiment du boulot. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses, c'est-à-dire que moi je pense que tous ces jeunes... Qui vivent ça, j'ai l'impression que forcément un endroit ça porte ses fruits, quoi.
Et on parle d'aller dans la rue et le spectacle, enfin ce que vous proposez surtout c'est vraiment du spectacle vivant. Il y a pas tant d'albums finalement que ça. Il y a Les Jours Allonges qui a été édité. Non mais je veux dire par rapport à tous vos projets, il y en a plein qu'on a malheureusement pas eu, on n'a pas eu de traces vraiment, quoi.
Non, parce que c'est la production discographique, je crois que je te l'ai déjà dit pas mal de fois. C'est,
oui, à l'époque, on en avait parlé.
C'est, c'est un pan qui économiquement est très, très, très lourd, qui est important, mais il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, d'autres qu'on ne peut pas se permettre. Puis moi, un disque, c'est un objet mémoriel qui est important, donc faut qu'il soit quelque part, faut qu'il y ait une réussite. Si c'est sortir un disque pour sortir un disque, moi ça, faut que ça reste un objet qui ait son intérêt. C'est pour ça que les deux disques qui sont sortis dernièrement, que ce soit Les Jours Rallonges ou Orange Socket, sont des disques qui ont un intérêt parce qu'ils sont placés artistiquement à un endroit précis où il y a un lieu d'expression qui n'est pas la scène, qui est le disque, et le disque raconte quelque chose. Et pour moi, un disque, il faut que ça raconte quelque chose. Il ne faut pas que ça soit dans la mode d'un objet qui va nous permettre de jouer. Ce n'est pas ça pour moi, le disque. Pour moi, le disque, c'est vraiment un objet qui raconte un peu une partie de notre histoire.